Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet.
19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Le vice-président de Valeurs Actuelles. Bonsoir Jean-Claude Dacier.
Bonsoir.
Le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse Roland Cayrol. Bonsoir Roland.
Bonsoir Marc-Olivier.
Ne m'appelez plus jamais France.
Siemens prend les commandes du train Alstom et Fincantieri du bateau STX. Vous avez entendu tout à l'heure la colère de Xavier Bertrand sur RTL. Il y a des lendemains de mariage très tristes. Le gouvernement doit s'expliquer. Est-ce que le soutien allemand aux réformes européennes du président se fait contre le passage en deuxième division de l'industrie française ? Carrément. Alors le gouvernement brade-t-il nos bijoux de famille, Jean-Claude Dacier ?
Ah, écoutez, moi je suis chiffon. Comment c'est pas chiffon, on dit pas chiffon. Je suis si, désappointé, je comprends pas très bien.
Chiffonné,
voilà. Honnêtement, Florent Pagny, notre ami, c'est part au Portugal pour pas payer d'impôts. Le ministre monte au créneau, lui promet des arrangements, etc. etc.
Lequel et là, Florent Pagny, je le rappelle, n'était déjà plus résident fiscal français,
c'est vrai,
pareil.
Il est en Argentine, quelque part. Enfin, bref. Et là. Vous avez dans la même journée, tout de même, au lendemain du grand discours européen du président de la République, vous avez, qu'on le veuille ou non, Alstom qui passe sous le contrôle allemand. On peut nous raconter ce qu'on veut, on pourra rentrer dans les détails sur 50-50. En fait, c'est pas 50-50. Le siège, bon, il est peut-être à Paris 4 ans, on verra ce qui se passera au bout de 5 ans, etc. etc. Et puis, pour faire bonne mesure, pour que le mini-sommet italien soit un succès, franco-italien, vous avez en plus... STX, qui est quand même quelque chose d'important, fabrication navale, qui passe sous contrôle italien. Alors, moi je suis européen de sensibilité, mais si être européen, être quasiment fédéraliste, c'est dire amen au départ de ce qui nous reste d'industrie, je suis quand même profondément troublé. Je pense que c'est, pour beaucoup de Français, ce sera incompréhensible. Et que c'est une mauvaise affaire pour le président de la République et son gouvernement.
Écoutez, c'est deux dossiers différents. Sur le dossier des chantiers Laval, quand il y avait eu le premier accord, on en avait parlé ici. J'avais dit que ça me paraissait un bon accord et que j'avais pas entendu les gens protester depuis des années que les Coréens étaient majoritaires à 60% dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est ahurissant qu'ils aient accepté sans problème 60% pour les Coréens et que partager avec le plus grand chantier naval européen pour faire un géant européen du chantier naval, ça les effraie. Je ne comprends pas. Je trouve que l'accord était bon, on est pratiquement au même aujourd'hui, avec en plus cette invention
du, oui, petit du 1% qu'on peut récupérer si jamais les accords ne sont pas tenus.
Mais peu importe, moi je trouve que nous savons que c'est un domaine dans lequel la concurrence internationale est considérable. Nous savons que le savoir-faire et l'importance des chantiers navals va être maintenu. Je ne vois pas où est le problème. Je préfère de loin un grand chantier naval européen.
Donc ça, c'est pour Fincantieri.
Et sur Siemens et Alstom, qu'est-ce que vous voulez ? Alstom, c'est une belle boîte qui a des carnets de commandes, mais qui a beaucoup de mal à progresser, qui est coincée parce que désormais, on construit des métros, des TGV, des trains, des stations de chemin de fer dans tous les pays du monde. Et c'est très compliqué.
En Chine notamment, c'est vrai.
Oui, pas seulement en Chine. En Chine, il y a beaucoup de Chinois qui se servent d'ailleurs de ce qu'ils ont appris d'Alstom et de Siemens et qu'ils font maintenant bien, beaucoup moins cher. Donc, moi, je ne vois pas comment échapper à l'idée de faire quelque chose de plus important avec, en effet, à la tête du nouvel ensemble, Siemens, qui est une boîte qui, elle, n'a pas été dépecée par les pouvoirs précédents, qui est restée un conglomérat industriel d'une grande taille grâce à le savoir-faire industriel et politique des Allemands.
Je trouve là encore que c'est plus important que Siemens. C'est quand même... Pourquoi ça se fait dans ce sens-là ?
Ça ne peut se faire que dans ce sens-là, parce que la boîte qui marche le mieux, c'est Siemens aujourd'hui. L'avenir d'Alstom, parce que c'est à ça qu'il faut comparer, c'est qu'est-ce qui serait arrivé si on était resté tout seul ? Il y avait une grande inquiétude sur l'avenir d'Alstom.
Oui, mais vous avez entendu tout à l'heure Xavier Bertrand sur RTL dire qu'il y avait d'autres mariages possibles. Un mariage, oui, c'est pas ça qui remettait en cause, non. Mais c'est ce mariage avec Siemens, non, il dit qu'il y avait d'autres mariages, Bombardier, Enco,
et que c'est complètement idiot, il vaut mieux faire un mariage faire un mariage européen qui permette en effet de faire progressivement une industrie européenne qui fonctionne. On peut pas être européen, on peut pas être,
je suis d'accord,
européen, mais j'aime bien Xavier Bertrand par ailleurs, mais
moi je trouve si ça se fait au détriment des intérêts français à chaque fois,
c'est pas le problème des intérêts français, c'est qu'il faut en revanche qu'il y ait des garanties plus importantes écrites sur l'avenir des sites français, et notamment du site de Belfort, parce que là, je comprends que les types aient peur d'être oubliés au profit des usines allemandes.
Mais vous avez entendu sur RTL toujours le patron d'Alstom dire que les sites ne seront pas fermés.
Pendant 4 ans.
C'est ce qu'on dit toujours.
Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude là, et je comprends que les salariés aient une inquiétude, et c'est à celle-là qu'il faut répondre, et pas répondre à côté sur le dossier lui-même, qui est bouclé.
Oui. Bon, c'est toujours des affaires compliquées, les affaires industrielles. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose, de mon point de vue, qui est relativement simple. Ça a été déjà un peu dit. Il y a des mastodontes absolus dans le domaine du ferroviaire, que ce soit Bombardier au Canada, que ce soit CRRC
en Chine.
Les Chinois ayant d'ailleurs un immense marché devant eux, parce que c'est un immense pays et que il est un état de développement qui permet de le faire. Et ce grand marché national leur permet d'être très compétitifs et d'avoir des prix plus bas dans le reste du monde. Donc on a une difficulté. Cette difficulté, elle n'est pas pour demain matin, mais elle est pour après-demain. Et gouverner, c'est quand même prévoir. Premier élément. Deuxième élément, on a besoin de champions. On a besoin de champions européens. On ne peut pas expliquer tous les jours que l'avenir, c'est l'Europe. Alors je comprends que les souverainistes qui expliquent qu'il n'y a rien de pire que l'Europe ne veulent pas en entendre parler.
Mais c'est ce que j'allais dire à Jean-Claude. On ne peut pas saluer le discours d'hier d'Emmanuel Macron et reprocher aujourd'hui un groupe européen.
La troisième chose que je voulais dire, et qui fera peut-être bondir un certain nombre de souverainistes, c'est que je pense qu'en matière industrielle, quand l'intérêt profond de la nation, c'est-à-dire le militaire, c'est-à-dire le nucléaire, des choses comme ça, ne sont pas en cause, la question de la souveraineté nationale est seconde. Ce qui est important, c'est que ces entreprises fonctionnent, que les salariés aient du boulot, qu'on gagne des marchés, et je trouve que c'est en train de se faire aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai que si la situation que tu décris doit être celle qui se met en place, oui, enfin, ça ne s'est pas passé comme ça avec Lafarge. Maintenant, ça devait rester en France.
Ni avec Alstom Énergie.
C'est à Zurich. Et c'est pas le seul exemple. Technip, c'est pareil. Recherche pétrolière, c'est parti à Londres. Moi, je veux bien. Bon, pendant 4 ans, on a la garantie jusqu'à la fin du mandat du président de la République actuel. C'est très bien. Qu'est-ce qui se passera après? Moi aussi, je comprends que les ouvriers d'Alstom.
C'est pas mal, avec l'autre, il y avait des garanties qui duraient 3 mois.
Oui, enfin, bon, les promesses n'engagent que, etc., etc. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, la même journée, et que si l'Europe... Elle a expliqué ensuite aux Français qu'ils doivent apprécier, aimer l'Europe et la soutenir, quand ils s'aperçoivent qu'à chaque fois, pas à chaque fois, n'exagérons rien, mais que ça se fait souvent au détriment des intérêts français.
69 entreprises françaises dans les dernières années sont passées... 69 entreprises allemandes sont passées sous contrôle français.
C'est ça qu'on
ça existe aussi dans l'autre
Allez,
sens.
On y revient
des petites.
On y revient dans un instant avec Annie Lemoine, qu'on n'a pas encore entendu, mais c'est de ma faute, je n'ai pas passé la parole.
Les Rocheneurs ont parlé, là.
Pas que.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
19h30, on fait le monde avec Jean-Luc Manot, Jean-Claude Dacier, Roland Kayrol. Donc, comment vous les avez appelés, Annie Lemoine ?
Les Rocheneurs.
Et avec vous, Annie Lemoine. Donc, STX.
Écoutez, moi, je trouve que ce soir, on pourrait, par exemple, se réjouir de la naissance du numéro 2 mondial de la fabrication ferroviaire. Il était doux le temps où Siemens et Alstom pouvaient se bagarrer, se faire la guerre. C'est fini, on ne peut plus, on n'a pas les moyens. Il y a des Asiatiques, des Japonais, des Coréens, des Chinois, un gros groupe, comme vous le disiez, chinois, avec une puissance de feu extraordinaire, chiffre d'affaires, enfin bon. Donc, il faut absolument faire l'Europe se défendre et faire exister l'Europe. On ne peut pas la veille avoir parlé de l'Europe à la Sorbonne comme Macron l'a fait et ne pas, en travaux pratiques, faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on a bradé le TGV, je ne sais pas s'il y a eu un deal secret avec Madame Merkel, plus ou moins secret, puisque tout le monde en parle. Mais l'essentiel ce soir, c'est d'avoir réussi, je pense, à avoir constitué ce noyau dur franco-allemand et qui va pouvoir se battre sur tous les marchés.
Mais ça, c'est à Dacier et... qu'il faut le dire, parce que c'était lui qui était pour Ronchon, oui, pour le coup. Parce que là, vous regardez Kerrol et Mano, et ils sont plutôt sur la même ligne.
Je suis d'accord mot à mot avec ce que vous avez dit, et je crains que vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit. Donc,
Non, mais c'est vrai.
Mais elle le dit avec plus de... D'emphase, voilà.
Comme une femme.
Oui, avec plus de talent, je voulais dire.
Plus de douceur, peut-être.
Avec plus de talent.
Garantir l'emploi.
Très bien, on parle d'un grand projet franco... Non, pas franco-allemand, parce que c'est Siemens qui sera majoritaire. Et quand vous êtes majoritaire, c'est vous qui commandez. Et s'il y a un gros problème de commande des trains ou des métros, c'est les Français qui dérouilleront, et c'est pas les Allemands.
Mais comme vous le disiez, Jean-Luc Manopo dans la pub...
Je veux bien qu'on rêve à la souveraineté européenne.
Jean-Claude, comme vous le disiez, Jean-Luc Manopo dans la pub, le chômage en France, c'est pas les Allemands qui l'ont inventé.
Je pense qu'on peut difficilement se réjouir, comme certains le font ce soir, de cette solution qui est une solution qui est acceptable. Je ne suis pas en train de dire que c'est un désastre et qu'une catastrophe. Enfin, l'Italie qui nous prend les chantiers navals.
Est-ce qu'il y avait le choix ?
Oui, peut-être. Il y avait d'autres négociations possibles. Peut-être.
Oui, alors qu'est-ce qu'on faisait avec Alstom,
le résultat n'est pas satisfaisant.
Nous sommes, de la transition écologique notamment, le ferroviaire a un immense avenir sur cette planète. Et donc je ne vois pas pourquoi on doit tout de suite se mettre à avoir peur d'affronter un marché de ce genre. On va le faire avec un champion d'une extrême importance.
Mmh. Ouais, développé dans le digital aussi.
Une connaissance avec des brevets formidables. Ouais,
je trouve qu'en fait, les deux sociétés font exactement la même chose.
Sur un certain point. Elles ne font pas exactement les mêmes choses. En réalité, Siemens, c'est très, très performant sur tout ce qui est signalétique. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'elle a des résultats qui sont meilleurs en termes de bénéfices, j'entends, qu'Alstom. Mais c'est vrai qu'il y a des... Attendez, qui faille de la vigilance. Et j'espère que le gouvernement français va le faire sur les questions sociales et sur l'emploi, évidemment. Oui. Moi, je ne veux pas raconter d'histoire. Quand il y a des fusions, en général, il y a derrière des réductions d'emplois.
En général. Mais
En général. Mais ce que je voulais dire, ce que Marc-Olivier Fongiel avait l'amabilité de dire en dévoilant ce que je disais pendant la pause, qui n'est jamais privé, que je peux redire pour les auditeurs, en l'occurrence, des compressions de personnel, des licenciements massifs, le capital. Le capitalisme français, c'est ce que c'est, il en a fait plus que les Allemands, il en fait massivement, il en fait depuis des années. Donc c'est pas le fait que le patron de l'entreprise, l'actionnaire, il ait eu un passeport français qui fait qu'il va pas licencier ses salariés.
Là-dessus c'est...
Non, mais je reconnais ça, je souhaite de tout cœur me tromper. Mais enfin, il y a une logique industrielle qui s'impose et qu'elle risque
mais
de s'exercer
votre
d'ici quelques années... au détriment des intérêts français.
Oui, mais alors, sur une autre solution. Ah. Cocorico, restons français, mais avec qui et comment ?
Il y avait effectivement un certain nombre de... selon certains experts, dont je ne suis pas du dossier, il y avait peut-être d'autres possibilités.
Peut-être,
d'autres.
Ça, techniquement, voilà. On peut discuter de ça.
Mais sur la souveraineté... Bombardier nous a fait des offres, on préfère choisir la solution
Bombardier,
européenne.
C'est canadien.
Je veux bien.
Est-ce que c'est un non-sens aujourd'hui de choisir l'Europe quand on a envie de la faire ? Non.
Qui nous a vendu des TER il y a 5 ans. Mmh. Bon, voilà, donc c'est pas non plus un étranger.
Si on est dans une question de souveraineté, il y a plus de logique à le faire avec un Européen que de le faire avec un Canadien.
Je trouve.
Peut-être.
Allez, dans un instant.
On vient pas de passer un grand accord commercial avec les Canadiens ?
Bien sûr. Vous parlez du CETA ?
Bien sûr.
Ça, c'est un autre sujet.
C'est la même chose, c'est le business.
C'est un tout autre sujet.
C'est que les relations industrielles peuvent parfaitement, et les relations commerciales. Ça ne limite pas aux frontières de l'Europe, on peut travailler avec les Canadiens.
Enfin, s'il s'agit quand même de faire, y compris de faire politiquement l'Europe, c'est quand même pas mal de faire aussi des projets concrets avec les Allemands ou les Italiens.
C'est le point faible de position.
On parle ça du rachat des clubs de foot par des étrangers.
Ça n'a rien à voir.
D'ailleurs, ce soir, il y a un match franco-allemand.
On va parler dans un instant, si vous voulez bien, du premier budget Macron, un budget pour les riches.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
À 19h38 avec Jean-Luc Manot, Roland Quayrol, Jean-Claude Dacier, Annie Lemoine. Les bons comptes du gouvernement ne lui fait pas que des bons amis. Le premier budget du quinquennat Macron était donc présenté aujourd'hui. Parmi les gagnants, la défense, l'éducation, l'écologie. Parmi les perdants, le logement, le sport, les transports. La réduction des prélèvements obligatoires ne sera que de 7 milliards d'euros en 2018, alors que le gouvernement promettait une baisse de 10 milliards. Mais Bruno Le Maire défend tout de même un budget qui bénéficiera à tous les Français et non aux plus riches. Alors ce budget est-il uniquement fait pour les plus aisés, selon vous, sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ah, c'est un peu le sentiment global, en effet. Baisser les impôts et le déficit, le projet de loi tiendra-t-il ses promesses ? S'inquiète Tourna, le député En Marche Pierre Persson tweet que oui, 10 milliards de baisse d'impôts en 2018, 6 milliards pour les ménages, 4 milliards pour les entreprises, claironne-t-il. Précisé, hein, 6 milliards de baisse d'impôts pour les ménages, donc 5,99 pour les ménages les plus riches, rétorque Rémi. Cadeau pour les plus aisés et matraquage fiscal pour les classes moyennes, confirme Tristan. Le PCF en remet une couche en tweetant « L'assistanat des grandes fortunes, voilà la priorité du premier budget de l'ère Macron. Rose a calculé avec la modification de l'ISF, la première fortune de France, Bernard Arnault, s'assurerait un cadeau de 553 millions d'euros. La loi s'emporte contre cette croyance quasi mystique en la théorie du ruissellement, comme quoi la richesse des uns dégoulinerait sur les autres. Mystique car elle n'a jamais marché, dit-elle. Mais non, on va pouvoir réinvestir et créer de l'emploi, assure Chang avant de se reprendre. Sauf qu'avec la libre circulation des capitaux, on va investir là où gagner encore plus, donc pas en France. Onze n'est pas d'accord, qui prédit une hausse du pouvoir d'achat. Et avec ça, bon courage aux politiciens et aux bâcheurs qui veulent caricaturer la politique de Macron en austérité, dit-elle. Et ben pourtant, le socialiste Olivier Faure relève le défi, qui tweet « Les dividendes et la spéculation désormais moins taxés que le travail, c'est ça la République en marche ?» Ou encore « Les jets, les yachts, les chevaux de course, les lingots d'or, plus soumis à l'ISF, à droite toute. » Le ministre Bruno Le Maire rétorque en ligne « Arrêtons avec ces vieilles lunes de gauche qui consistent à vouloir redistribuer la main sur le cœur, un argent que nous n'avons pas. C'est vous la vieille lune, conclut Bounia. Un thatchérisme, même repeint avec trois couches de numérique, reste une politique de chaos social, point final. »
Allez Annie, je commence par vous. Vous avez entendu, pas un budget pour les riches, mais qui redistribue la richesse, dit le gouvernement.
Oui, c'est vrai que ça repose un peu sur un postulat, à savoir que le capital épargné doit servir effectivement au bout du compte, au bout de la chaîne, à l'emploi. Bon, ça restera à vérifier dans les mois qui viennent. Ce qu'on peut dire...
Voir les années.
Si on regarde les réactions ce soir à ce premier budget de l'ère Macron, c'est qu'il ne fait que des mécontents, c'est-à-dire à droite les gens qui pensent que les classes la droite qui pense que les classes moyennes sont un peu non pas sacrifiées mais pénalisées avec cette hausse de la CSG et à gauche, on pense qu'effectivement on a fait des cadeaux aux riches. Ça veut dire que c'est un budget macronien, finalement, un budget qui lui ressemble. Et c'est vrai qu'on est dans, on reste avec les axes des promesses de campagne. Donc ça, c'est un point positif, on peut dire, quand même. Mmh. Fidélité à la parole donnée, même s'il y a des ajustements et qu'il y a quelques milliards qui sautent au passage. Mais je voudrais dire aussi que dans le détail, et c'est important de regarder ça, il y a des signaux qui sont positifs, comme je veux regarder ça, moi, le ministère de l'Enseignement supérieur, le budget qui reste important. C'est un bon signe donné à l'éducation. D'ailleurs, le budget de l'éducation nationale qui reste aussi... c'est important.
Le budget des sports oui. Qui baisse de 7%.
Le budget de la culture qui reste constant, c'est pas si mal. Donc, en fait, réponse dans les mois qui viennent sur ce budget est-il ou non opportun, efficace, à signaler qu'il a été établi par relatif beau temps avec une croissance qui est correcte.
Et qui est l'héritage de François Hollande.
Oh. La croissance. Non, l'économie a changé.
Ah oui, on a commencé à...
Nous avons maintenant, grâce au BIT, que ça fait 11 trimestres de suite que nous avons une baisse du chômage et une montée de la croissance dans ce pays, quand même. Donc, c'est vrai que les dernières mesures depuis 2014
ça dépend de
ont changé les choses. Quel que soit l'instrument de mesure.
Non, on a pris 22 000, ça va...
Non, mais ça, vous savez bien que les chiffres...
Oui, c'est les chiffres...
L'emploi mensuel n'a aucun intérêt.
Voilà, ça fait des années qu'on les commente, mais là, ils n'ont plus d'intérêt.
Mais moi, j'ai toujours su que ce n'était pas les bons chiffres.
Oui, mais...
En attendant, le budget d'aujourd'hui avec des chiffres précis.
Écoutez, comme l'a dit Annie, c'est d'abord pas très surprenant. Ce budget, c'est à peu près toutes les promesses de campagne de Macron. Il a raboté un petit peu à la fin pour des raisons d'austérité nécessaires. Mais on retrouve l'ensemble de tout ce qu'il a dit dans sa campagne électorale. Donc, on ne peut pas être surpris. Que le capital, désormais nettement épargné, aille vers des investissements innovateurs et créateurs d'emplois, c'est un pari. C'est le pari que fait ce gouvernement, et il le dit franchement. On n'en sait rien. On verra bien dans un an, dans deux ans.
Mais vous y croyez ?
Je crois que c'est possible. Je crois que, en tout cas, c'est un pari qui peut-être mérite la peine d'être tenté. Ce qui est un problème, c'est que si vous additionnez la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'essentiel de l'impôt sur la fortune et la taxe unique de 30% sur les revenus du capital, ça veut dire que sur les 7 milliards de, baisse d'impôts, on va avoir plus de 5 milliards. Enfin, on fera les comptes dans un an. Mmh. À mon avis, plus de 5 milliards qui vont du côté du capital. Or, ce pays, il a besoin de créer de l'emploi, mais je crois qu'il a aussi besoin de justice sociale. Et du point de vue de la justice sociale, c'est clair que le compte n'y est pas. C'est clair que c'est du côté des retraités d'abord, mais aussi des salariés moyens.
Salariés retraités.
Et notamment des salariés du secteur public. On a redit qu'il y avait gel de l'indice. Oui, peut-être. Mais
le point gelé, il n'y a pas d'annonce de suppression encore de fonctionnaires.
Et je vous rappelle que du temps de la campagne de Macron, il nous avait dit que... Puisqu'ils n'étaient pas concernés par la CSG, il y aurait une compensation pour les salariés du public.
C'est vrai.
Elle n'est pas là. Donc il y a quand même des gens qui vont souffrir un peu plus l'année prochaine.
Jean-Claude Dacier ?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je comprends que ce n'est pas un budget parfait. D'ailleurs, il utilise aussi quelques bons trucs et vieilles trouvailles des budgets précédents, notamment le calcul des dépenses en tendance. Donc plus personne n'est capable de s'y retrouver. Simplement, il faut fixer des priorités dans un environnement...
Les dépenses augmentent, en vérité.
Absolument, les dépenses augmentent. Donc, ce n'est pas aussi terrible qu'on veut bien le dire à gauche. Je comprends que les gens de gauche fassent des mines, parce qu'ils ont un gris-gris qu'ils peuvent accrocher au dos et aux épaules, sur les épaules du président Macron et de son gouvernement. C'est le président des riches. Tout est dit. Le président des riches. Et avec ça, s'il ne réussit pas à s'en débarrasser, c'est vrai que ça va être le vrai handicap. Pas le budget, cette étiquette politique que les gens de gauche... ce qui en reste, essaie de lui accrocher. Je dis, moi, je ne suis pas un expert de la chose publique et c'est bien difficile d'être capable, à travers ces budgets, de juger de ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent. Simplement, il y a une chose dont je suis certain, convaincu, c'est que pour, et pas seulement pour cette année, il faut pour les années qui viennent faire un effort gigantesque sur l'investissement, gigantesque sur les entreprises, gigantesque sur la fiscalité du capital.
Et c'est à la hauteur
pour que, sans doute pas assez, pour que ce pays reparte enfin et crée de vrais emplois et pas des emplois aidés.
Jean-Luc Manot.
Oui, sur le budget, d'abord, j'ai jamais vu depuis un certain temps, maintenant que je regarde un peu ces choses politiques, à un moment, un budget où tout le monde applaudit, tout le monde dit que c'est formidable. C'est toujours un moment évidemment difficile pour un gouvernement. Le premier point, ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qui me paraît bien dans ce budget, d'emblée, c'est qu'il est sincère. C'est que la Cour des comptes a écrit pour la première fois sur le budget de l'année dernière qu'il avait été sciemment insincère. Oui, c'est-à-dire que la Cour des comptes a dit que le gouvernement avait volontairement truqué les chiffres, menti à la représentation populaire et donc menti aux Français. Celui-là est sur une prévision de croissance d'un 7 qui n'est pas véritablement contestée, qui est même peut-être un peu pessimiste. Et donc il a l'air sincère. Quand un budget est honnête, c'est déjà mieux que quand il est volontairement malhonnête. La deuxième chose, beaucoup de choses ont été dites sur le budget pour les riches. Franchement, il y avait l'ISF. Il y a l'ISF, là. Et alors, ça a aidé l'emploi ? Ça a aidé l'investissement ?
Bien sûr que non.
Ça a développé la redistribution massivement ? Ça a empêché qu'on alourdisse les prélèvements obligatoires, et notamment sur les Français ? Non, donc on voit bien que c'est symbolique. En réalité, voilà, c'est le pari, vous l'avez dit. Si les gens qui sont assujettis, qui étaient assujettis à l'ISF, qui ne vaut plus l'être que sur leur possession immobilière. Si le reste du fric, ils le mettent dans l'industrie française et que ça crée des emplois, bravo. S'ils ne le font pas, eh bien, on aura fait une erreur parce que ça aura été effectivement un cadeau sans lendemain.
Évidemment qu'ils le feront. Le problème de l'ISF, c'est qu'il fallait probablement le supprimer complètement. Là, il y a eu un léger recul politique, on peut le comprendre.
C'est quand même l'essentiel.
Mais bien évidemment, oui, mais enfin, personne n'a protesté sous Mitterrand quand il s'est agi de préserver les intérêts des objets d'art et autres maisons de commerce.
Je rappelle que Nicolas Sarkozy devait supprimer l'ISF, il n'a même pas supprimé la moitié.
Je ne suis pas là pour commenter la politique.
Attendez,
c'est un impôt stupide.
Il y a eu une polémique
contre la création d'acier.
Avec M. Rousselet, elle s'est vite éteinte.
Allez, on repart dans un autre sujet qui n'a rien à voir, l'écriture inclusive.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
19h50, on refait le monde avec Roland Cayrol, Jean-Claude Dacier, Annie Lemoine, Jean-Luc Manot. C'est une polémique dont la France a le secret. L'écriture inclusive consiste à rendre plus neutre et plus égalitaire la langue française, par exemple en écrivant les métiers à la fois au masculin et au féminin, en utilisant des points pour entrecouper les lettres. Pour la première fois, un manuel scolaire pour CE2 des éditions Attier applique ces règles. Pour beaucoup de professeurs, cela rend la langue incompréhensible et imprononçable. Alors l'écriture inclusive, ridicule ou pas sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Énormément de réactions épidermiques. Krusty trouve d'une stupidité sans nom cette lubie féministe. Claire répond qu'elle comprend pas comment on peut être contre. C'est donc scandaleux de contester que le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais, l'écriture inclusive, c'est illisible et dur à traduire à l'oral, répond Pachou. Oui, c'est galère, mais pas besoin de s'énerver. Laissons ça à ceux qui veulent galérer tranquillement, tempère Nadia. S'il faut simplifier, alors supprimons les différentes conjugaisons et tous les accords. Bien plus pratique, ironise Bay. Ça fait soupirer Taliane. L'écriture inclusive fait face à la même opposition que la féminisation des noms de métiers il y a 15 ans. Mêmes arguments ineptes, dit-elle. Mais sérieux, l'écriture inclusive, c'est le refus total de l'individu de se fondre dans un collectif. C'est la victoire de l'individualisme, prévient Nimp. Non, l'écriture inclusive, c'est le refus des femmes d'être effacées du collectif humain, rétorque Mélusine. C'est pas juste une construction de grammaire, c'est aussi un enjeu de société, insiste Raphaël. Il y a eu de grosses batailles au XVIIe siècle pour réaffirmer la prédominance du masculin sur le féminin par la langue. Ouais, on avait déjà les dyslexiques, les dysorthographiques, on aura désormais les dysinclusifs, orthophonistes. Tenez-vous prêts, grince Fabien. Pour tout comprendre, conclut Jean-Michel, ne ratez pas Enquête inclusive, hein, une émission avec Bernard Delà, Villardière.
C'est vrai que c'est un peu compliqué, cette écriture inclusive. Ça y est, vous avez adopté, vous, Roland Carole ?
Non. C'est-à-dire que c'est vrai que ça posait sans doute problème que d'avoir ce pluriel dans lequel c'était le masculin qui l'emportait. Moi, je me souviens que j'avais un prof à Sciences Po d'histoire des idées politiques, Jean-Jacques Chevalier, qui disait « Les hommes, et par les hommes, j'entends un terme générique qui embrasse les femmes. » Bon, voilà, on voit bien que... voilà. Bon, mais qu'on dise désormais plus seulement les hommes, quand on veut dire le genre humain, mais qu'on dise les hommes et les femmes, très bien. L'histoire de l'orthographe inclusive me met dans un trouble beaucoup plus grand. Parce que, imaginez, vous parlez des auditeurs de RTL. Mmh. Vous devez désormais dire les auditeurs et les auditrices.
C'est déjà le cas, je crois.
Voilà, mais à l'écrit, on doit dire les auditeurs, entre parenthèses, trice, et après le S. Mmh. Ça fait des phrases écrites absolument illisibles. Mmh. Voilà, et c'est ça que je trouve que là,
faut
à force
pas
de chercher
bouchon,
la
quoi.
Petite bête, on a poussé le bouchon trop loin.
Oui, moi je trouve que le but, qui est quand même, rappelons-le, de respecter l'égalité finalement des sexes, est évidemment louable.
Des genres.
Voilà, oui.
Des genres, oui.
Oui, des genres, d'accord. le fait qu'on y résiste davantage en France qu'ailleurs, disent les spécialistes... Pourquoi ? Ça aussi, c'est intéressant. Alors qu'en Angleterre, en Belgique, apparemment, au Canada, ça se fait beaucoup plus facilement. Pourquoi chez nous, ça reste toujours les droits de l'homme et pas les droits des humains, human rights, etc. Bon, bref. Donc, il y a des questions qui se posent quand même. Pourquoi est-ce qu'on dit plus facilement agricultrice que chirurgienne ? Je ne sais pas s'il faut dire chirurgienne, mais pourquoi est-ce que c'est adopté maintenant, agricultrice, mais pas chirurgienne ? Bon, il y a des questions intéressantes. La langue est le reflet quand même de la pensée, de l'état d'esprit. Je pense que quand on s'adresse à une assemblée, sans parler de l'écrit, quand on dit bienvenue à toutes et à tous, ça signifie quelque chose. Mmh. Bon, je pense qu'il faut prendre en compte effectivement cette égalité. D'accord. Alors qu'on laisse un éditeur, c'était Attier là qui l'a fait pour un bouquin de CE2, adressé au CE2. C'est un peu délicat qu'un éditeur seul décide dans son coin finalement, même si on fait parler, ça fait parler, c'est bien. Puis vous voyez, on en parle ce soir, mais qu'on doit écrire comme ça avec un point, puis après, je crois qu'il faudrait réfléchir, et d'ailleurs que l'Académie française est tellement conservatrice que c'en est épouvantable, mais qu'il faudrait réfléchir à comment faire évoluer cette belle langue française où c'est vrai le masculin ne l'a pas toujours emporté sur le féminin.
Vous allez adorer, Jean-Claude.
Non, moi je suis pas choqué. Figurez-vous que le masculin, parfois, de temps en temps, s'efface derrière le féminin. Il y a certaines phrases qui supportent très bien une écriture inclusive. On pourra en citer des exemples. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que certains féministes ou certaines associations ont tout de même un talent rare pour trouver des problèmes là où il n'y en a pas, mener des combats alors que la cause féminine, me semble-t-il, dans nos pays occidentaux est gagnée depuis longtemps.
Oulala, bien sûr, oui. Restons vigilants.
Culturellement, jours, mais il faut rester vigilant. Bon, maintenant qu'on appelle une chirurgienne, personnellement, ça ne me gêne pas, il y a parfois la possibilité d'accorder avec le mot le plus proche ou le verbe le plus proche.
Là, ils peuvent changer.
C'est pas gênant, mais auteur, par exemple, de bouquins, appelez ça une autrice, quelque part.
Non, c'est un auteur.
Oui, auteureux.
Oui, c'est pas auteur.
Et il faut l'écrire comme ça, parce que l'écriture inclusive, il faut écrire auteur, entre parenthèses,
Je disais sur un papier dans l'IB, voilà. Charpentier, charpentier, charpentière. Ça me paraît un peu bizarre. C'est un peu excessif, un peu ridicule.
L'écriture inclusive est beaucoup plus compliquée que ça. Ah, ouais. Ah, vous avez dit tous les deux, ça va très bien.
Bien, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
Évidemment. Bon, et je suis pas sûr que ce combat, encore une fois, fasse beaucoup progresser un égalitarisme. Cette obsession de l'égalitarisme homme-femme, qui, encore une fois, est largement sur les rails dans nos pays occidentaux. Je parle pas de la.
Il y a qu'à voir les salaires.
Regardez le nombre de députés, regardez tout ça, les salaires.
Moi, la femme et les hommes, c'est pas tout à fait la même chose.
Non, mais il peut y avoir autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée, ça me choque pas.
C'est pas obligatoire, ça peut arriver.
Mais c'est jamais arrivé.
Mais les quotas.
Il faut attendre 50 ans.
Allez,
j'ai eu la curiosité de lire 4-5 pages comme ça. Ouais, ouais. C'est effroyable.
C'est effroyable.
C'est idiot. C'est effroyable. Alors, pas dans un traité ou pas dans un truc de base. Bon, enfin, si vous lisez un peu littérature comme ça, ça vous donne immédiatement envie de poser le livre. Alors, peut-être que c'est une question d'habitude, etc. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est effroyable et c'est esthétiquement effroyable. Premier élément. Deuxième élément, moi, je suis pour ce qu'on appelle la double inflexion ou la double flexion. C'est-à-dire que, évidemment, on ne dise pas les Français, qu'on dise les Français et les Françaises, qu'on s'intéresse.
Ou les Françaises et les Français.
D'ailleurs, on dit les auditeurs, les auditrices, que je salue en passant. Donc, ça, je suis vraiment pour. Je suis vraiment pour qu'on féminise. Je suis pour qu'on féminise toutes les professions. Parce qu'en effet, on voit que c'est surtout les professions les plus élevées qui ont du mal à prendre un féminin dans la langue française. Ouais. Après, pour le reste, sur la grammaire, alors remarquez, c'est assez compliqué, parce qu'on change une grammaire que plus personne ne respecte, parce que le truc... Alors, l'idée qu'on dise Marco et Aline sont belles, je ne suis pas certain que ce soit esthétiquement le truc le mieux qu'on puisse inventer.
Soit moche, oui, mais soit belle, non.
Et puis j'ai une dernière question à poser à tous ces gens qui veulent mener ce combat. Il y a des concepts qu'il faudrait à ce moment-là discuter qui sont au féminin. La conscience, la beauté, la pureté, tout ça.
Tout ce qui est plus important, en fait.
Indique une primauté féminine, en tout cas du féminin, et donc peut-être qu'il faut s'en préoccuper.
Allez, merci à tous les quatre.
Vous écoutez RTL.